fin de match complètement folle ici au King Power. Oh, et Jamie Vardy entre dans la danse.
And it's Thierry Henry. And Henry is magnificent. And when you need a goal, you need Thierry Henry.
PL Zone.
Aguero.
Salim Bongali, Florent Moussi.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la première ligue, le plus beau des championnats au monde. Évidemment, Happy New Year, oui, on peut le dire encore tout le mois de janvier a priori. Le week-end, vous suivez à la télé sur RMC Sport les matchs. Le lundi, on en parle en profondeur avec une thématique particulière. On l'évoquera dans un instant avec, surtout, Flora Moussi. Bonjour Flora.
Salut à tous et bonne année.
Bonne année. Loïc Moreau aussi, bonne année.
Coucou, bonne année.
La période des fêtes, car c'est de cela dont on va parler désormais, comme toujours épatante, avec des histoires nombreuses, des buts clés, des surprises des joueurs qui nous ont étonnés, d'autres déçus. Notre regard, le vôtre aussi, partagé sur le compte Twitter de RMC Sport avec le hashtag PL Zone, l'épisode 10 de PL Zone, le podcast. Et oui, déjà 10, consacré à la période des fêtes. C'est parti.
Sadio Mané face à Edouard Mendy, l'ouverture du score pour Liverpool, du génie sénégalais, Sadio Mané, et il est important ce but, 9ème minute, Liverpool mène à 0. Mohamed Salah, le petit ballon piqué, et Mohamed Salah qui climatise Stamford Bridge, 26ème minute, Liverpool 2, Chelsea 0. 41ème minute, il est important. Ce coup franc, Marco Alonso qui frappe directement, Keller vigilant sous la menace.
Un but
extraordinaire de Kovacic. Et Kovacic remet totalement Tourelle et sa bande dans le match.
Konaté, oh, il est bon.
Il est bon pour Pulisic. Oh, l'égalisation de l'Américain Pulisic. 46ème minute. En 2 minutes, Chelsea renverse tout. En 2 minutes, Chelsea revient de 0-2 à 2 partout.
Eh oui, un sublime match pour conclure cette période affolante des fêtes. Tiens, juste avant d'en parler posément avec Loïc, avec Flora de cette partie, la parole à Ibrahima Konaté, le défenseur de Liverpool, qui revient au micro RMC Sport de Julien Laurent sur le scénario du match, justement.
On commence très bien le match, après on prend deux buts, deux très beaux buts de la part de Chelsea, dont un, bon, on va pas dire que c'est de la chance, mais je pense que sur 100 fois, c'est... Je pense pas qu'il en met plus de 5 comme ça. Mais bon, on repart avec un point. On est assez content de repartir avec son point face à Chelsea.
Bon, à travers les propos d'Ibrahima Konaté, on reviendra sur ce seul point pris. Mais d'abord, le match, c'était une dinguerie quand même, Flora.
Ah, on s'est régalé. Franchement, terminer la période des fêtes comme ça, c'était franchement un régal. On avait un peu peur, on va pas se mentir, parce qu'on a été souvent déçus par les chocs de Première Ligue cette saison. Du coup, là, on s'est dit, il y avait tellement aussi d'enjeux pour les deux équipes dans ce match, parce qu'avec City aussi loin devant, il y avait beaucoup de pression, les absents des deux côtés aussi, Klopp qui n'était pas là. Il y avait beaucoup, beaucoup d'histoires autour de ce match-là. Et finalement, franchement, on s'est régalé. On a eu un peu peur, parce que vu comment Liverpool a démarré le match, on s'est dit, ça peut être très déséquilibré. Et de voir Chelsea revenir comme ça, avec plein d'abnégation, franchement, c'est régalé.
En plus, on s'est dit, Lukaku qui n'est pas là, avec évidemment ce qui se passe entre Lukaku, Chelsea et Tourelle, on va dire comme cela, avec des joueurs de Liverpool qui ne sont pas là aussi, touchés par la Covid, avec Jurgen Klopp pas là, on s'est dit le niveau va régresser, ça va être compliqué, et au final, Loïc, waouh, on s'est régalé pendant toute la partie.
Ouais, c'était dingue, comme a dit Flora, c'était un match qui a été à la hauteur des attentes, hein, pour paraphraser un grand penseur, c'était un peu le football de demain, aujourd'hui. C'est vrai que en termes d'intensité... En termes d'envie, on a tout eu, quoi. C'était génial. Et c'est vrai que Liverpool démarre tellement bien le match qu'on n'imagine pas non plus un scénario comme ça pour la suite. Et c'est vrai qu'on regardait un petit peu les chiffres. Au final, cette saison, il y a eu 4 matchs où une équipe n'a pas gagné après avoir mené de 2 buts ou plus. Et sur ces 4 matchs, il y en a 2 qui concernent Liverpool. Le premier, c'était contre Brighton.
Ouais.
Pareil, ils se font rattraper. Et là, contre Chelsea, et on entendait Stéphane au commentaire, c'est vrai qu'en 2 minutes, bon, voilà, ils ont tout retourné avec Kovacic.
C'était magnifique.
Oui, c'était magnifique. Mais Liverpool, on s'attardera sur le cas Liverpool dans quelques instants. Avant cela, il y en a un qui était chanceux, très chanceux même, puisque lui, il était également à Stamford Bridge pour ce match. Quand on entend ça, on entend surtout la voix de Mathieu Faury. Bonjour Mathieu.
Bonjour Salim, bonne
Happy
année à
New
tous.
Year. Évidemment, bonne année
oui,
à vous
New
aussi
Year.
Mathieu, vous étiez effectivement au stade, mais avant de parler de votre regard du stade même, la presse anglaise, elle en dit quoi 24 heures après cette rencontre?
Bah, la presse anglaise, elle est un petit peu comme Julien Laurence et moi en après-match, en bord-terrain. On se disait, c'est vraiment l'un des matchs les plus entertainants, les plus divertissants qu'on ait vu cette saison. Mais la presse anglaise est du même avis, avec toujours cette équipe de Liverpool qui a fait la différence en début de match avec sa force de frappe incroyable et qui se fait rejoindre encore quand on ne s'y attend pas. Comme le disait Loïc, contre Brighton, contre Brentford, ça a été le même cas. La presse décrit aussi un match un petit peu à l'ancienne, forcément, avec au niveau de l'intensité, au niveau de la combativité, même au niveau tactique, avec notamment Antonio Rüdiger qui avait pris Mohamed Salah en marquage individuel. Et ça a fait une grosse différence, parce que vous savez, Mohamed Salah, je le regarde souvent pendant les caméras isolées en Première Ligue, il se fait souvent oublier sur l'aile droite, et à chaque fois, il réussit à faire des petites différences avec ses appels. Et bien là, Rüdiger, il le suivait toujours, et c'est notamment en le suivant jusqu'à la ligne médiane qui récupère une passe à destination de Salah, et qu'il y a directement l'égalisation de Pulisic derrière. Encore une fois, pour parler d'un match à l'ancienne, la combativité, les coups, et notamment celui du coup de Sadio Mané dans le visage de César Azpilicueta, qui a beaucoup fait parler, notamment dans le studio de Sky Sports à Stamford Bridge, où l'ex de Liverpool, Jamie Carragher, et l'ex de Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbank, s'opposaient. Carragher soutenait que c'était plus un coup de l'avant-bras et que ça ne méritait pas un carton rouge, surtout à la sixième seconde. Hasselbank lui a répondu « Est-ce que tu parles avec ta tête de supporter ou de footballeur ?» Bien sûr que c'est rouge. Donc c'est l'un des éléments qui a fait parler.
L'objectivité de Carragher, voilà.
Voilà, surtout quand on parle de Liverpool, hein, ça s'entend. Tiens, il y en a un qui est d'accord aussi avec Jimmy Floyd Hasselbank, c'est Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, après le match, lui aussi au micro de Julien Laurence. Et après le match, il le dit clairement, il y a rouge.
Sadio, c'est mon compatriote, c'est mon frère, mais il ne doit pas rester sur le terrain après une minute de jeu. Donc, c'est des décisions, il faut les respecter, mais c'est dommage de ne pas se servir pleinement de cet outil. Il y a toujours un peu un flou sur l'utilisation, si l'arbitre fait appel ou si on fait appel à lui. Je pense qu'il faut s'en servir pleinement.
Mais c'est vrai que l'outil de l'assistance vidéo n'a pas été utilisé comme il le faudrait, parce que... Alors ok, on était dans notre studio, on n'était pas sur le terrain, on n'était pas dans le stade, mais on a quand même l'impression, Flo, qu'il y a carton rouge là, non ?
Oui, alors chacun prêche pour sa paroisse dans ces moments-là. Edouard Mendy, évidemment, qui voulait qu'il y ait rouge pour Sadio Mané, c'est logique. Carragher, de l'autre côté, il ne va jamais avouer qu'il y a la faute, évidemment, qu'elle est là. Après, je m'interroge, on est toujours à dire que, bien sûr qu'il y a l'utilisation de la VAR, mais qu'avant tout, il y a aussi la perception de l'arbitre, le moment du match, parce que s'il met rouge à ce moment-là, en fait, c'est
plus
le même match,
hein.
En fait. Donc, du coup, il y a aussi ça qui rentre en compte et... La faute, elle y est. Voilà, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, moi, ça m'aurait embêté qu'à ce moment-là, le match soit tué pour cette raison, en fait.
Ouais, mais le problème, Loïc, encore une fois, le moment, très bien, parce que comme vous le dites très bien, c'est dans la toute première minute. Mais bon, il peut péter les dents d'Azpilicueta, j'exagère quasiment. Quoi.
Carrément, mais c'est vrai que ce que disait Edouard Mendy au micro de Julien, en fait, on ne sait pas trop, encore une fois, on peut être pro ou anti-VAR, hein, c'est à la mode de toute façon d'être polarisé sur ce sujet, mais ce n'est même pas le problème, là, c'est juste pourquoi il ne va pas checker, en fait. Tout simplement, c'est l'utilisation qui est faite de l'assistance vidéo qui est encore une fois qui est pas bonne. Regardez, il est allé checker le but de Kovacic pour un hors-jeu soi-disant de, je crois que c'est Rüdiger qui est avancé. Bon, on perd du temps là-dessus. Tourelle était dingue, il était complètement malade sur la touche et pour cause. Et là, on check pas. Non, bon, voilà, il a mis un gros coup de coude. Bah, bien sûr que ça peut changer la physionomie du match, mais en soi, il le mérite, son rouge. Et ou au moins, l'arbitre pourrait au moins juste vérifier pour voir c'est lui qui est décisionnaire, il sait mieux que nous, donc juste pour vérifier, il l'a pas fait, je trouve ça bizarre.
Tiens Mathieu, si je ne m'abuse, vous étiez vous positionné vraiment à côté des supporters de Chelsea, leur ressenti à ce moment là
Totalement fou, globalement sur cette action mais surtout sur les buts d'après. Stamford Bridge était en ébullition comme jamais cette saison. Là, il y avait notamment une grosse différence face au match de Brighton qu'on avait fait 3 jours auparavant, où c'était assez soporifique en fait. Mais dès qu'il y a un gros adversaire qui arrive à Stamford Bridge, le public se transcende. Là, forcément, il y a toujours les chants quand Liverpool arrive sur Steven Gerrard qui avait glissé face à Chelsea. Et surtout sur cette égalisation de Pulisic en première période après avoir été mené 2-0. Je me suis retourné avec ma caméra pour filmer les supporters à la place du match. Le public était transcendé, c'était un bouillon, c'était devenu un vrai chaudron, Stamford Bridge. Et c'est l'atmosphère typique que l'on rêve d'avoir sur des chocs comme ça pour la période des fêtes.
Juste, messieurs, dames, quand même, Liverpool qui mène 2-0, qui se fait remonter à 2-2. Comme ça, surtout encore une fois, en menant aussi vite 2-0. Alors, je ne vais pas parler de faute professionnelle parce que ce n'en est pas une, et puis parce que c'est Chelsea en face, mais c'est quand même deux gros points perdus par les Reds.
Ah, si, mais c'est énorme. Enfin, il faut se rendre compte que, vu la période aussi très compliquée pour toutes les équipes, City qui est très au-dessus en ce moment, qui a la chance d'être épargnée un peu par tout ça, et c'est sûr que pour Liverpool, mener 2-0 rapidement face à Chelsea, bah, c'est tout bénef à ce moment-là, parce que quand on a l'info des cas de Covid juste avant le match, qu'on voit la compo, on se dit bon, il manque quand même des joueurs cadres à Liverpool, on peut avoir un petit peu peur pour eux, et finalement ils déroulent assez bien. Et puis ouais, il y a ce relâchement à un moment, et évidemment Edouard Mendy le dit, le but de Kovacic, il va pas les mettre 40 fois dans sa carrière, oui, mais il est là et il relance tout en fait à ce moment-là, et c'est juste avant la pause en fait. Donc il y a ces deux buts rapidement qui permettent à Chelsea de revenir. Et Liverpool, on les a sentis un petit peu dépassés et pas avoir les ressources nécessaires en fait pour faire la différence encore une fois en seconde période, parce que comme souvent en fait Liverpool, ils peuvent très bien démarrer, mais pour terminer les matchs au même niveau, c'est plus compliqué.
Ouais, c'est ça qui est affolant, c'est que les occasions, il y en a eu. Edouard Mendy a fait une grande seconde période notamment, mais il manque ce petit truc de réalisme comme on l'avait vu un peu contre Leicester aussi.
Ouais, et puis encore une fois, c'est tu parlais de deux points perdus, c'est effectivement c'est ça, et dans la course au titre ça compte encore une fois. Je sais pas si vous vous souvenez, mais fin décembre on avait regardé les équipes qui avaient perdu plus de points après avoir mené au score, notamment parmi les trois équipes de tête, ouais. T'avais Chelsea qui en avait perdu le plus, ils étaient à 11, Liverpool était à 8, donc ce qui est quand même beaucoup, on peut rajouter les deux d'hier, et City 0. Voilà. Donc voilà, bon, tout de suite tu vois aussi à quel point le fait de ne pas savoir tenir un match, ça a des conséquences directes, et ça on le voit maintenant au classement, même si c'est un peu faussé parce que avec tous les matchs reportés suite à la Covid, bon, effectivement il y a des gros gaps et il y a encore des matchs à rattraper, notamment pour Liverpool, mais la différence ça se fait là.
Mais tiens, après le match également, Ibrahima Konaté, toujours au micro RMC Sport de Julien Laurence, parlait de cette course au titre, une course au titre quelque peu délicate pour lui.
Bien sûr que la course au titre elle est super difficile, mais bon, maintenant on doit se focaliser sur nos performances, on ne doit pas regarder City. Je pense qu'on doit continuer et essayer de gagner les prochains matchs qui vont arriver. La saison elle est super longue et on verra ce qui va se passer d'ici là.
Oui, la saison est encore longue, il a raison sur ce point-là Ibrahima. Mathieu, vous étiez également à Leicester il y a quelques jours pour le fameux Leicester-Liverpool, l'autre match des Reds, puisque les Reds n'ont joué que deux matchs sur cette période, non pas trois, puisque le Liverpool-Leeds a été reporté pour des cas de Covid à Leeds. Mais ce jour-là également, on avait vu un Liverpool dominateur qui avait raté un pénalty par l'intermédiaire de Mohamed Salah, qui avait vu Sadio Mané rater une grosse opportunité également, Liverpool dominateur, mais qui n'avait même pas pris un seul point ce jour-là.
Non Salim, bah c'est un petit peu aussi la magie quand on tombe à Leicester, notamment sur la période de Noël. Vous connaissez cette capacité des Foxes à surprendre leur adversaire. Bon, c'était clairement pas un match aussi emballant que ce Chelsea-Liverpool. Liverpool n'avait pas trouvé les solutions. Jurgen Klopp l'expliquait à Julien Laurence en après-match notamment. Il disait, quand on joue face à une équipe en losange comme ça, il faut qu'on réussisse à la passer sur le côté, passer par les côtés. Je criais ça aux joueurs tout le long du match et la solution n'a jamais été trouvée par une aile ou par l'autre. Et forcément, effectivement, c'est un Liverpool sans solution qui a fini par se faire punir parce que tactiquement, ils n'ont pas trouvé la clé face à un Leicester qui a été suffisamment solide.
Liverpool a pris un point en deux matchs. Liverpool va perdre Salah, Mané et Naby Keita qui sont déjà en chemin pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pardon, mais ça va être très très compliqué les semaines à venir en fait, Flo.
Mais ouais, mais c'est pour ça en fait que cette période des fêtes était aussi importante pour Liverpool, parce qu'ils savaient très bien que derrière ils allaient perdre des joueurs clés et que forcément ça allait être compliqué vu le rythme qui est imposé aussi devant par Manchester City. Depuis le début, on avait ciblé de toute façon que l'équipe qui pouvait être le plus touchée pendant cette CAN, c'était Liverpool, parce que les deux joueurs majeurs que sont Salah et Mané allaient partir et qu'on a vraiment de gros questionnements sur Origi qui peut remplacer, sur Minamino qui sont clairement pas des joueurs à la hauteur de Salah et Mané. Donc forcément, on se disait qu'il fallait qu'ils engrangent un max de points en fait avant ça pour être sûr de capitaliser, parce que comme le départ des joueurs est assez tardif, finalement c'était une belle opportunité pour eux et ils n'ont pas engrangé tous les points qu'ils auraient dû prendre. Alors ils n'avaient pas un calendrier ultra facile non plus, on va pas se mentir, mais on n'a pas reconnu le Liverpool qu'on avait l'habitude de voir la saison dernière notamment.
On est d'accord, hein, Loïc, hein, ouais. Pour le coup, c'est ça qui est presque effrayant avec cette équipe de Liverpool.
Effectivement, Flora l'a très bien résumé. Maintenant, encore une fois, ce que disait Edouard Mendy, bon, la saison elle est encore longue. Oui. On n'est pas à l'abri non plus de voir Manchester City calé, parce que là, ils marchent un peu sur l'eau. Hein. Je rappelle que c'est la seule équipe qui a fait 3 sur 3. Bon, en même temps, c'est une des rares qui a fait trois matchs durant cette période de fête. Mais ils ont quand même fait 3 sur 3. Ils laissent quasiment rien à leurs adversaires. Mm. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est une saison, le foot, on sait très bien qu'on ne peut pas donner le titre tout de suite à City. Mais effectivement, en ajoutant tout ce qu'on vient de dire, bon, on se dit que là, Liverpool, qui pourtant, à un moment donné, semblait être la dernière équipe capable de venir un peu titiller City, là, même là, ça paraît compliqué. Et Chelsea, à la limite, malgré tous les problèmes auxquels ils font face en ce moment, notamment ce qu'évoquait Salim avec Lukaku, finalement, c'est peut-être eux qui sont les mieux placés pour être empêcheur de tourner en rond, quoi.
Ouais, mais c'est ça qui est dingue, parce qu'au final, on a eu, et même nous, on a appuyé beaucoup dans Pay Live sur le coup de moins bien de Chelsea, qui vraiment était au ralenti. Au final, il termine cette période défaite devant Liverpool. Donc, on se dit, même quand on regarde le classement, on fait, en fait, Liverpool, ils ont quand même perdu beaucoup de points. Ils ont un match en moins, évidemment. Mais c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, finalement, Chelsea, qui paraissait vraiment en difficulté, fait peut-être meilleure impression que Liverpool sur cette période-là.
Mais on le rappelle, donc, à l'issue de cette période, City, leader avec 10 points d'avance sur Chelsea, 11 points d'avance sur Liverpool, même si les Reds ont un match en moins, l'écart semble creuser, ce qui va nous permettre justement de nous poser aussi à l'issue de ces fêtes et justement de nous régaler à réécouter certains moments clés.
Raheem Sterling qui est là, il nous régale, il vous régale et Manchester surtout fait honneur à ce Boxing Day avec Raheem Sterling.
Ils vont dégainer les Blues avec ce centre,
oh, les Blues,
la tête magnifique de Romelu Lukaku. Avec Alan Saint-Maximin qui va enchaîner, marquer Alan Saint-Maximin.
Et ben voilà comment on est sanctionné derrière. Moins de 60 secondes après la plus belle occasion pour les Bees. Ils se font piquer par Phil Foden et ses coéquipiers.
Avec Cucurella, le ballon par-dessus. La tête et l'égalisation. La tête et l'égalisation de Danny Welbeck. 91e minute, Brighton refait le coup. Kevin De Bruyne, est-ce que Ramsdale va y aller? Non. Holding et le but de raccro de Rodri. 93e minute. Rodri est en train d'offrir un 11e succès consécutif à Manchester City.
Oui, il y en a eu des buts clés, des buts impressionnants, de beaux buts. Bref, des moments en tout cas sur cette période des fêtes qui a démarré le 26 décembre. Mais avant d'évoquer tous ces buts, j'ai envie de commencer par vous, Mathieu Fauré, notre correspondant à Londres. Vous avez fait combien de matchs sur cette période?
Alors, j'aurais pu en faire 7, mais le jour du Boxing Day, j'ai laissé la partie sportive à Julien Laurence pour me concentrer sur l'ambiance de Noël à Londres, vous vous en souvenez. Donc, je suis passé à 6 et je devais donc en faire 6. Je suis passé à 5 en fait parce que j'avais tenté un challenge un peu fou le jour du 1er janvier. C'était hier. Il y a deux jours. J'ai essayé de faire 3 matchs à Londres dans la journée. J'ai pas pu tous les faire. Donc, je me suis contenté de 5 matchs, mais j'ai vu 15 buts quand même. Avec notamment un Crystal Palace West Ham 3-2 où les Eagles ont failli revenir face à ton West Ham. Salim, je pense que tu as eu quelques surfroids dans les derniers instants.
Mais
effectivement, effectivement, une période défaite, un régal incroyable. Bon. Et d'ailleurs, une statistique qu'on a avec Julien Laurence sur cette première partie de saison, on n'a fait aucun match avec 0-0. Au moins un but à chaque fois.
Ça, c'est bien. Ah, ça, c'est bien. C'est bon pour la suite. On sait où envoyer les mecs. Tout. Donc, à chaque fois, quand il y a un match de West Ham, il faut les envoyer, évidemment. Comme ça, il y a des buts avec Michel Antonio, évidemment.
Bien sûr.
Juste, on a le sourire, mais on est évidemment surtout dans une période aussi Covid, avec des matchs qui ont été reportés durant cette période. Mathieu, juste pour bien comprendre, très bêtement, comment ça se passe pour les spectateurs, mais simplement les journalistes, comment ils vont au stade simplement durant cette période? Est-ce qu'ils ont eu un pass et ils sont contrôlés et ils rentrent directement? Il y a un protocole particulier?
Alors ça dépend selon les stades en fait, selon les clubs aussi. On n'a plus le droit par exemple de faire les interviews en présentiel, on n'a plus le droit de parler aux joueurs, même c'était déjà très compliqué sur le début de la saison. Mais par exemple quand on va à Tottenham, quand on va à Arsenal, on nous demande un pass sanitaire. Ça a été le cas à Chelsea aussi, ce n'était pas le cas Je prends un exemple, à Leicester, ça n'a pas été le cas, à Crystal Palace non plus. Les supporters aussi sont censés être soumis au pass sanitaire, mais c'est une mesure qui a été demandée nulle part. Du coup, je vous ai raconté, j'ai fait quelques matchs en tant que supporter sur cette période, ce n'est absolument pas contrôlé. Mais au niveau des journalistes, on a quelques restrictions, effectivement, le port du masque quand on ne fait pas une interview avec un joueur. Encore une fois, ça dépend toujours des stades et des clubs, en fait.
Alors, de l'autre côté, vous avez quand même senti l'atmosphère de défaite?
Ah bah totalement, totalement. De toute façon, les stades se mettent aux couleurs au niveau des animations, dans l'ambiance, dans Londres. Tous ces moments sympas, notamment Pep Guardiola qui revient à la fin de son interview, souhaiter bonne année à tout le monde après avoir terminé son interview lors du match contre Arsenal. Mais même au niveau au niveau des buffets, au niveau de l'ambiance entre, dans les salles de presse.
Important de parler des buffets, vous avez toujours raison Mathieu.
Toujours ça, très important, bien surtout sûr. Qu'on ne les avait pas en début de saison. Et là, c'est revenu, toujours avec ses couleurs de Noël. Et on espère vous avoir fait bien vivre cette ambiance quand même sur RMC Sport pendant les fêtes.
Avec ce pull de Noël là, tu ne pouvais pas faire mieux.
C'est vrai, et je vous conseille d'ailleurs à toutes et tous vraiment d'aller un jour au buffet d'Arsenal, que vous soyez... soit journaliste, soit VIP si vous avez cette chance-là, parce que le buffet d'Arsenal c'est quelque chose.
Il y a des gâteaux absolument fabuleux.
Et des glaces aussi. Flora, plus sérieusement, c'est vrai que sur cette période qu'on a pu diffuser sur RMC Sport, on a senti l'atmosphère des fêtes quand même.
Oui, et heureusement, moi j'avoue que j'avais un petit peu peur, parce que déjà que l'année d'avant on avait vécu un Boxing Day encore pire presque, parce que oui, les matchs étaient là mais il n'y avait personne dans les tribunes, c'était triste, c'était vide, c'était vraiment particulier comme et puis il y avait tellement de matchs sur les journées qui étaient étalées. Et là, on s'est dit, bon, évidemment, il y a ce contexte Covid, il y a beaucoup de matchs qui sont reportés parfois le jour même, enfin à quelques heures du coup d'envoi. Donc c'est un peu frustrant aussi, on imagine, enfin déjà pour nous quand on travaille autour de ça, mais pour les spectateurs aussi, que ce soit à la télé ou en Angleterre. Et c'est vrai que on a quand même réussi à avoir cette atmosphère-là, à ressentir ce moment qui est un moment important en Première Ligue, en Angleterre et dans le foot, parce que ça joue qu'en Angleterre à ce moment-là. Et moi, j'étais quand même contente d'avoir la chance de vivre ça, parce que j'avais peur, vu les restrictions qui commençaient à intervenir un petit peu partout, et notamment en Angleterre, qu'on ne puisse pas vivre pleinement ce Boxing Day comme il se doit.
C'est vrai, je parle presque de frustration, Loïc. Vous êtes amené pour nos différentes émissions à préparer plein de stats pour les différents matchs, forcément. C'est presque frustrant de se dire, bon sang, je suis en train de préparer pour un match et au final, il n'a pas lieu, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est ce qui nous est arrivé assez souvent ces dernières semaines. Après, voilà, ça fait partie du jeu. Moi, je suis assez d'accord avec Flora. Je mettrais juste un petit bémol, c'est que ça a été quand même pas mal tronqué. Ouais. On n'a pas l'impression non plus d'avoir vécu avec la même intensité que les... Alors, pas, on fait fi de l'année précédente, ouais, parce que c'était catastrophique, mais d'il y a deux ans, trois ans, on n'a pas encore retrouvé vraiment la période des fêtes comme on a pu la connaître il y a encore pas si longtemps. Donc ouais, c'est vrai que ça, en plus avec encore une fois ces histoires de report, disons qu'on peut pas tirer non plus tellement d'enseignements. Il y a des équipes, il y en a qui ont joué trois matchs, d'autres qui en ont joué un seul, donc c'est un peu perturbant. Donc ouais, forcément satisfait qu'on ait pu aller au bout, mais avec quand même un petit tu vois, on reste un peu sur notre faim, quoi.
Oui, c'est vrai, même à quelques heures des matchs, on avait peur.
Bah oui.
Moi, je vous avoue, le Chelsea-Liverpool ce week-end, je me disais jusqu'au dernier moment, j'ai peur que, parce qu'on le rappelle, en Angleterre, des tests se sont faits tous les jours, en l'occurrence. Et quand l'avant-veille, il y a trois joueurs de Liverpool qui sont annoncés positifs, que la veille, Jurgen Klopp est annoncé positif, on se dit, oh là là, le lendemain, le jour de match, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres joueurs de Liverpool, sinon le match n'aura même pas lieu. Mm. Au final, il y a eu lieu avec le spectacle que l'on a connu. On en profite dans ce podcast, période des fêtes, et bilan période des fêtes, pour donner des bonnes et des mauvaises notes, entre guillemets, nos bonnes et nos mauvaises notes, et nos bonnes remarques aux joueurs, aux équipes, aux losers peut-être de cette période aussi. Tiens Flora, vous êtes à ma gauche, je vais commencer par vous. Votre équipe, peut-être frisson, ou qui vous a impressionné, au contraire, que vous n'avez pas du tout apprécié durant cette période, tiens.
Je peux faire les deux aussi.
Mais bien sûr.
Allez, je ferai les deux. C'était un peu compliqué en fait quand je me suis penchée là-dessus tout à l'heure. On en a parlé avec Loïc. C'était un peu compliqué parce que toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs. C'est très inégal. C'est compliqué de ressortir quelque chose, d'avoir une dynamique. Et finalement, c'est pas très compliqué en fait, très objectivement, quand on se penche sur cette période, de dégager une équipe qui est Manchester City, tellement ils ont survolé en fait cette période. Et même ces derniers mois, ces dernières semaines en Première Ligue, il y a trois matchs, trois victoires. Mais au-delà de ces victoires-là, il y a la victoire aussi impressionnante face à Leicester. Mais derrière, il y a cette victoire de raccro contre Brentford et encore plus contre Arsenal derrière. Parce qu'en fait, ils doivent jamais le gagner, ce match-là. Mais ils le gagnent, en fait. C'est ça qui est fou. Il y a ce but de Rodri dans les dernières secondes. Et on se dit, OK, mais c'est pas la peine. Donnez-le leur trophée maintenant. Parce qu'en fait, ça y est.
Rodri a marqué. C'est bon.
Voilà, c'est bon, il a gagné.
Il a terminé le jeu.
Non, mais en fait, moi, ce qui est impressionnant, je trouve, chez Manchester City, c'est ce côté presque inarrêtable. C'est-à-dire que même dans cette période où toutes les équipes sont touchées par des cas de Covid, eux, Non, ils sont dans une autre... On ne sait, je ne sais même pas s'ils évoluent dans le monde réel aujourd'hui, tellement ils semblent ailleurs, parce qu'ils sont au-dessus, en fait, pour tout. Et même dans ce cas de Covid, en fait, ils sont au-dessus. Ça ne les touche pas.
Ce qui est fou sur le match d'Arsenal, il y avait deux cas de Covid, Zinchenko et Foden, mais ils ont un banc qui est tellement imposant que Foden n'est pas là, c'est pas grave. Il y a du Sterling, il y a du Grealish, il y a du Gundogan, il y a qui vous voulez. Et même au poste derrière gauche, évidemment. Donc c'est aussi ça, au final, la force de Manchester City durant cette période. En étant pas si bon que ça, ce face à Brentford, ils sont pas transcendants.
Non,
mais ça gagne quand même, quoi.
C'est pour ça que moi j'ai choisi Manchester City, parce qu'on se dit, mais voilà, il y a des fois ils sont moins impressionnants, mais ils gagnent quand même, en fait.
Ouais,
et dans des saisons un petit peu tronquées comme ça, où il y a des équipes qui vont lâcher, et ça fait partie, moi, de mon équipe un peu plus loose, entre guillemets, pour moi, de cette période, qui est Liverpool, parce que on les attendait à un autre niveau, et au final, ils gagnent pas un seul de leurs deux matchs qu'ils jouent. Alors oui, c'est Leicester et oui, c'est Chelsea, mais quand Leicester vient de se prendre 6-3 contre Manchester City, que deux jours après, ils jouent Liverpool, on se dit, ils vont reprendre une tôle, en fait, c'est pas
Bien
possible.
Sûr.
Et en fait, pas du tout. Donc, on se dit, mais est-ce que le problème, il vient de Leicester ou il vient plutôt de Liverpool? Alors, Leicester, ils ont eu cette réaction d'orgueil quelque part, mais c'était pas évident pour eux de jouer deux jours après, alors que Liverpool n'avait pas joué en plus face
Absolument.
À Leeds. Donc, ils étaient encore plus reposés. Et j'étais extrêmement déçue de Liverpool pendant cette période. Et ça a confirmé, en fait, hier avec le nul face à Chelsea, où je me suis dit, mais cette équipe ne peut pas concurrencer aujourd'hui Manchester City, c'est impossible.
Juste Loïc, parce que j'aurais presque pu commencer par vous, en chiffres et en factuel, j'ai envie de dire, quelle est la meilleure équipe de cette période?
Si on prend uniquement les points, c'est ce que dit Flo, c'est Manchester City, puisque c'est la seule équipe à avoir fait 3 sur 3. Après, on est allé gratter, on a regardé selon les expected goals, notamment donc, la capacité à se procurer des occasions et aussi, à l'inverse, à ne pas subir de grosses occasions de l'adversaire. Et là, il y a une équipe qui ressort tout particulièrement, qui a fait d'ailleurs un bon Boxing Day, qui a disputé 3 matchs, c'est Tottenham. C'est le Tottenham d'Antonio Conte qui...
Il ne fait pas de bruit, mais...
Non, mais et qui n'a pas affronté des adversaires. Tu parlais de la difficulté du calendrier de Liverpool. Bon, là, il y avait Crystal Palace, il y avait Southampton.
Et Watford.
Il y avait Watford, donc pas des gros adversaires. Mm-hmm. Mais on sent, et ça se voit dans la mise en place tactique déjà, puisqu'il y a eu un changement tactique opéré par Conte qui fait jouer ses équipes d'une manière bien précise. Et ça, de toute façon, c'était le cas dans tous les clubs dans lesquels il est passé, même avec la sélection italienne. Et on voit quand même un changement drastique, une amélioration. Alors, dans les résultats, certes, mais là, je vous parlais d'expected goal. Ils en sont à 2,31 par match sur cette période des fêtes. Donc, ça veut dire, les occasions qui se sont procurées au moins 2 buts, et c'est encore plus impressionnant en termes défensifs, puisqu'ils laissent quasiment rien à l'adversaire. Ils sont à 0,3 XG subi par match, c'est rien, c'est mieux que City, c'est mieux que toutes les autres équipes de PL. Donc dans les chiffres, dans le contenu, quand on regarde un peu plus en profondeur, on voit qu'il y a vraiment quelque chose. Alors c'est perfectible, il a dit à maintes reprises son T1, mais on les voit qui remontent tout doucement au classement. On les croyait perdus en début de saison pour l'Europe avec Espirito Santo, ça allait pas du tout, le vestiaire il était perdu, tout ça. Et là, on les voit revenir en balle. Quoi.
Et en plus avec de la réussite, on se souvient face à Watford, le but à la dernière seconde de Davinson Sanchez, signe d'une équipe qui se bat jusqu'au bout. Votre regard, vous Mathieu, sur peut-être une bonne ou une mauvaise équipe de la période pour vous?
Mais j'ai failli dire Tottenham, donc heureusement que j'ai changé d'avis à la dernière seconde. Je me suis penché sur une équipe qui a concédé 9 buts en 3 matchs et qui a marqué 9 buts en 3 matchs et qui en a concédé 6. C'est ton équipe de West Ham, Salim. Mais elle a été surprise pendant le Boxing Day, défaite face à Southampton à domicile. Mais ensuite, victoire 4-1 à Watford, victoire 3-2 à Crystal Palace, le match auquel j'ai eu la chance d'assister. Et c'est donc, ça a été l'une des équipes les plus prolifiques. 2 victoires sur les 3 matchs. C'est une équipe qui confirme, après sa très bonne saison dernière, qu'elle va postuler à l'Europe jusqu'au bout, qui a notamment régalé. Vous avez vu ce but de Lanzini face à Crystal Palace. Et puis, c'est cette équipe, c'est l'atmosphère, l'ambiance qu'elle transporte partout où elle va. Forcément, à Sellers Park, ce condensé de supporters entre Crystal Palace et West Ham, c'était magnifique niveau ambiance. Donc, mon coup de cœur du Boxing Day et de cette période de Noël, plus généralement, ce sera les Hammers.
Ma voix ne s'est pas transformée en celle de Mathieu Fauré. Hein. Je vous précise, c'est bien Mathieu qui a évoqué...
Tu l'as payé combien
Du tout. Comme quoi, il y a du spectacle dans les matchs de West Ham. Pas toujours en faveur de West Ham, mais comme quoi. Moi, j'avoue, j'ai un autre club qui m'a pas mal marqué sur cette période, c'est Brighton.
Ouais.
Brighton qui va s'imposer face à Brentford. Alors, vous allez me dire, c'est que Brentford, mais pour le coup, c'était un match assez spectaculaire, qui va arracher ce nul 1-1 à Chelsea à la toute dernière seconde, dans un match que Brighton a largement dominé. dominé avec beaucoup d'occasions, avec un Mendy impressionnant, et puis cette victoire face à Everton 3-2 avec un McAllister impressionnant. Enfin, vraiment une équipe de Brighton qui sur cette période a joué, a voulu jouer et s'est plutôt bien montré. Brighton qui remonte d'ailleurs petit à petit au classement. On voulait évoquer les équipes, les joueurs également de cette période. Avant de vous entendre, on va écouter Emmanuel Petit. Alors vous savez que notre consultant, il peut tout faire. J'entends par là quand on lui dit sur cette période des fêtes, Manu, c'est qui ton meilleur joueur? Lui, il ne parle pas que de la période des fêtes, il parle même du début de saison.
Pour moi, c'est Bernardo Silva, parce que lui qui était, il y avait des rumeurs de partance au mercato estival, et au final, il décide de rester. Et bien lui a pris, parce que je trouve qu'il fait une première partie de saison juste stratosphérique. Le garçon, chaque match, il a été un des meilleurs de PL, à chaque journée quasiment, en étant décisif la plupart du temps. Et je trouve qu'il a bonifié son jeu dans différentes positions.
Alors effectivement, il tire le fil, Loïc, au-delà de la simple période des fêtes. Mais c'est vrai que Bernardo Silva, il est l'homme clé de ce système de City.
Oui, bah, c'est dans la continuité, effectivement, ce que dit Manu de son excellente saison. Alors après, bon, je mettrai un petit bémol, il n'a pas été décisif durant ces trois matchs. Donc bon, effectivement, de là, dire que c'est le meilleur joueur du début de saison...
Manu dit ce qu'il veut. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Et, du coup, effectivement, dire que c'est le meilleur joueur du début de saison, je pense que oui, il est peu... Enfin, après, il y a Salah, il y a beaucoup d'autres talents, mais pourquoi pas. Sur la période des fêtes, j'aurais un petit faible plutôt pour Hudson Edouard de Crystal Palace, qui fait quand même 2 buts, 2 passes D, que j'ai trouvé très bon, même quand les résultats de son équipe suivent pas, et qui, pour moi, dans ce Crystal Palace rajeuni de Patrick Vieira, a clairement sa carte à jouer. Et lui, c'est un vrai buteur. Je veux pas faire offense à Benteke, à Jordan Ayew, mais c'est pas, voilà, on sent qu'il a quelque chose en plus, le Français.
Je sens, Flora, que vous avez plutôt parlé de Mikel Antonio.
Non, pas du tout.
Ah, j'ai cru.
Mais on est très français. Dommage. Parce que moi aussi, j'ai choisi un Français pour cette période des fêtes, parce que j'avais envie, comme toi, en fait, Salim, de mettre en avant les performances de Brighton pendant cette période-là, parce que avant le boxing, c'était très compliqué quand même. Hein, pour les Seagulls, c'était une très mauvaise période. Et finalement, ils ont réussi à revenir, et notamment sous l'impulsion d'un homme, c'est Neil Maupay, qui a fait un but, une passe décisive pendant cette période. Et puis même, c'est plus pour la continuité, parce qu'il était buteur aussi avant. Et je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Enfin, c'est un joueur qui est... Moi, ce que j'aime chez lui, en fait, c'est son attitude, c'est sa hargne, il se laisse jamais abattre, il n'est pas toujours performant dans tous les matchs, mais il a cette volonté d'aller de l'avant, il a cette volonté de performer en permanence, et c'est aussi sous son impulsion que Brighton a réussi cette période des fêtes, donc je voulais vraiment lui le mettre en avant pour le coup.
Mathieu, pour vous, votre joueur?
C'était très compliqué de ressentir un joueur, mais je pense que je vais continuer sur ma lignée des Hammers avec Lanzini, qui, je disais, m'a régalé sur cette période des fêtes, et notamment ce but messiesque sur la pelouse de Crystal Palace. Et je pense que c'est un peu un joueur symbolique qui n'a pas forcément été toujours titulaire ces dernières années à West Ham, avec la rotation des joueurs qui a été très importante. Mais en ce moment, c'est l'un des joueurs qui porte cette équipe de West Ham au niveau du jeu, au niveau de sa façon d'être décisif. Et c'est globalement très compliqué de ressentir une individualité sur tous ces matchs, tous ces buts auxquels j'ai assisté. Mais peut-être celui-là qui a été un coup de cœur sur le match contre Palace notamment.
Ah, c'est vrai que la question est difficile. Pour le coup, il y a eu tant de joueurs qui effectivement ont marqué les esprits. Alors moi, je suis un peu bizarre dans mon propos, vous allez le comprendre, parce que je parle d'un joueur qui n'a joué qu'un seul match, puisque effectivement certaines équipes n'ont joué qu'une seule rencontre sur cette période. Mais c'est vrai que moi, je voulais parler d'Iniesta. Parce que Joe Linton, c'est un peu le Iniesta de Newcastle en ce moment. Oui, j'en suis là, effectivement. Oh là là. Parce qu'on le rappelle que Joe Linton n'est plus attaquant, mais milieu de terrain désormais à Newcastle. Et contre Manchester United, il a fait un match 10 étoiles, 15 étoiles, 20 étoiles, tellement il a été fort. En numéro 1 en nombre d'occasions créées, numéro 1 en nombre de duels disputés, numéro 1 en nombre de ballons récupérés. Oui, Joe Linton, Eddie Howe a trouvé une nouvelle fonction à Joe Linton, non?
Non, mais il a joué un match, Salim.
Il a été stratosphérique. En un match, il a montré tant de choses. Il a montré plus de choses que depuis qu'il est à Newcastle, non?
Oui.
Oui, j'ai voulu m'emballer.
Je sais plus, Loïc.
J'aurais imaginé que tu nous cites Jarrod Bowen, par exemple.
Ouais.
Qui est quand même,
mais c'est vous dire, Bowen a été très bon avec West Ham, mais Joe Linton, il a été tellement fort face à Manchester United.
C'est surtout ça, non? Je pense que c'est ça qui t'a marqué.
Évidemment, avec la concurrence, forcément, avec l'adversité, forcément, il faut évaluer un joueur. Bon, plus sérieusement, je suis suis taquin. On verra surtout ce que donne Joe Linton à ce nouveau poste dans les prochaines rencontres de Newcastle. Dernière séquence, les équipes qui, pour le coup, ont été un peu loseuses sur cette période. Moi, j'en ai deux. Alors, je ne sais pas si vous allez être d'accord ou pas avec moi, Mathieu, Loïc, Flora, mais Everton et Watford. Que ce soit sur cette période et même, j'ai même envie de dire, depuis un certain moment,
ouais,
les deux équipes...
Everton n'a pas beaucoup joué aussi, en fait, au final.
Oui, c'est vrai, vous allez me dire. Mais c'est vrai que cette défaite face à Brighton, elle est marquante. Mais vous avez raison, pour le coup, il faut pondérer effectivement mon propos. Mais Watford, pour le coup, ça a l'air un peu plus difficile, Loïc.
Mais encore une fois, c'est frustrant parce que dans le contenu, ils sont là, Watford, quoi. Et c'est peut-être pour ça
comme depuis le début, en fait.
Oui, carrément. Mais c'est pour ça que Claudio Ranieri, quand on voit que ses dirigeants le maintiennent, pour l'instant, lui font confiance, on comprend pourquoi. Parce que c'est vrai que si on regarde juste le classement, on se dit, oula, c'est compliqué, mais derrière il y a un vrai fond de jeu, il y a une vraie volonté d'aller attaquer. Ils ont joué de malchance, effectivement ils se font punir contre Tottenham notamment, mais par exemple quand on, parce que faut toujours comparer avec les autres équipes pour voir, parce que forcément ils sont candidats on va dire à la relégation, mais quand on compare à Norwich oh tu parlais de lose,
mais c'est catastrophique,
ça n'a pas le niveau PL, je me demande si ça a un niveau de championship aussi, c'est cata.
Mais tu sais, c'est le fameux championnat entre les deux. Il faudrait créer un championnat comme ça entre les deux et eux, ils seraient là-dedans. Quoi.
Parce qu'ils sont capables de descendre et de remonter l'année d'après.
Ben,
donc,
ça va être ça. C'est bien le problème avec cette équipe de Norwich, effectivement. Mathieu, votre regard également, vous êtes d'accord sur Watford? Votre regard sur cette équipe un peu loseuse, peut-être?
Watford un peu loseuse, oui. Bah, notamment sur les matchs auxquels j'ai failli assister face à Tottenham et surtout contre... où ils ouvrent le score, malheureusement, face à West Ham avant de reprendre 4 buts et de totalement s'effondrer. Donc Watford, c'est pas encore dans la zone de relégation, mais effectivement, ils sentent forcément le souffle chaud de Burnley qui compte un match en moins. Mais si je dois donner mon équipe peut-être un petit peu plus faible sur cette période de Noël, je dirais l'Aston Villa de Steven Gerrard qui, après de très bons débuts, a quand même subi 2 défaites. Donc je pense l'équipe qui s'en sort le moins, notamment au niveau du classement, il y a un peu des répercussions négatives pour eux. Mais après, pas envie de les condamner non plus dans leur course à la première moitié de tableau.
Non, surtout que, malgré tout, avant cette période des fêtes, ça s'est plutôt bien passé pour la formation de Steven Gerrard. Le bilan de cette folle période des fêtes est terminé dans PL Zone, le podcast épisode 10. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à vous, Flora.
Merci à tous.
Merci Loïc. Merci Mathieu en direct de Londres. Samantha Zek.
Merci.
Et Julie Deroux derrière la vitre. N'hésitez pas pour vos retours avec le hashtag PL Zone sur Twitter, car ce podcast, c'est le vôtre avant tout. Et n'oubliez pas, même en 2022, come on you Irons. Ciao.